Non, moi je rentrerai pas dedans, je rentrerai pas dedans. Là, je vais te piéter un deux temps, là.
Club. Le Rock Club, c'est tous les lundis à 21h en direct et en rediffusion le jeudi à 10h sur le 99.8. Et sur radiobalise.com en direct et en replay comme d'habitude. Bonjour à tous, Marc à la réalisation, salut à toi, camarade. Toujours pas de micro, on a changé quelques manips sur la console, mais rien de bien méchant. Aujourd'hui, nous recevons Florentina Poștaru.
Poștaru.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonjour.
Alors, vous êtes une femme roumaine, installée depuis quelques temps à Lorient, donc nous parlerons Roumanie, enfance, migration, d'image d'un pays à l'autre, entre nous et la France, l'image qu'on peut avoir de la Roumanie ou que la Roumanie peut avoir de la France. Et puisque vous êtes arrivé ici dans cette émission par le biais de la radio, parce qu'on s'est rencontrés au sein de Radio Balise, on va pas se le cacher, récemment, sur une chronique que vous êtes en train de mettre en place qui s'appelle...
Comme un poisson dans l'eau.
Comme un poisson dans l'eau, on en parle tout de suite. Thierry Catrou, toi, tu as eu le droit à ta pause syndicale la semaine dernière, mais là, tu as repris ton cours de géo et d'histoire.
C'était un chômage technique.
Pour un regard, j'ai quelque peu désabusé sur ce pays mal connu, pas connu, peu connu.
Un peu ça, oui.
Ouais. Le pays où l'on n'arrive jamais.
Voilà, c'est en même temps la figure de l'altérité.
Éric Courtet, alors toi, la vie de Florentina Poștaru, je prononce bien hein, pour l'instant, Poștaru.
Sinon, je te corrige.
sa vie est un roman.
Bah oui. Donc du coup, on va aller faire un petit tour du côté de Tulcea.
Tulcea, tout à l'heure. Emmanuel Evenou, bonsoir, bonjour. Toi, tu vas nous... parler de Rome, souvent associé à la Roumanie, alors que c'est même si
tous les clichés, quoi.
Tous les clichés. Ouais. Tu vas nous parler de clichés, comme ça, Florentina va pouvoir réagir en fonction. Florentina, alors donc Eric l'a dit, vous êtes roumaine d'une ville qui s'appelle Tulcea. Alors il va falloir nous corriger en permanence. C'est une ville sur le Danube. Près de la mer Noire ?
Oui, c'est le dernier port du Danube avant qu'il se verse dans la mer Noire.
Alors, nous aurons tout à l'heure l'occasion de décrire la ville, votre enfance. Mais aujourd'hui, en fait, la première question que je vais vous poser, puisque vous êtes là depuis pas très longtemps, est-ce que vous êtes une migrante ? Alors, je le dis exprès, avec, parce qu'il y a un vrai poids derrière ce mot en ce moment. Vous avez fui un pays ou vous êtes juste venu en France parce que pour des raisons personnelles, pratiques ?
En fait, je peux dire que je l'ai fui, mais toujours je pensais à moi comme un auto-exilé.
Comme, pardon ?
Auto-exilé.
Donc, auto-exilé, d'accord.
On parle d'exil beaucoup, ouais. Et en ce qui me concerne, je dis toujours que je fuis un régime de corruption, surtout, et je choisis à vivre. Donc je l'ai fait très tard, mon exil. Mais c'était j'étais bien en Roumanie, mais je voulais vivre mieux.
D'accord. Et c'est facile parce que de migrer de la Roumanie vers la France ? Et pourquoi la France, d'ailleurs ?
En fait, moi, j'étudiais français-espagnol. J'étais toujours attirée par la culture française. Après, j'ai travaillé chez Carrefour en Roumanie, donc j'avais un petit peu la culture de travailler dans une boîte française.
Oui, une énorme boîte française.
Hein. Oui, et après, il y avait un prestataire à nous informatique à l'Armor Plage. Et grâce au patron de cette boîte de l'Armor Plage, qui m'a offert une deuxième chance à la vie aussi.
D'accord, donc c'est quand
je
même...
Je suis arrivée ici pour travailler.
Pour travailler, pour des raisons d'emploi, en fait.
Oui.
Donc, c'est une information. Il y a quand même une entreprise d'informatique de l'Armor Plage qui bosse pour un carrefour de Roumanie. C'est quand même pas mal. À Tulcea.
Non, c'est à Bucarest.
Ah, c'était à Bucarest. Mais quand même, ça, c'est une vraie information. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises locales, locales qui s'exportent, en tout cas, dans leurs compétences. Donc, vous êtes arrivé ici. C'était assez facile, puisque vous êtes arrivé avec un emploi.
Oui, je suis arrivée avec un emploi, mais après, quitter le pays, c'est pas toujours facile. En fait, moi, je suis arrivée tout seule. Je connaissais personne que la boîte. Et c'est quitter les gens, c'est le plus difficile. Donc, on doute beaucoup quand on arrive ici, même si on sait que peut-être c'est le bon choix. Mais on a des doutes parce qu'on se retrouve tout seul, on se pose des questions, on est isolé.
Et c'était quoi ? C'était un départ avec non-retour ou il y a quand même vous y retournez, voir votre famille régulièrement ou pas ?
Je retournais grâce à mon travail parce que j'ai voyagé beaucoup et je voyageais en Roumanie. Donc, je pouvais remplir un petit peu la manque. Mais après, je retournais toujours dans ma mansarde à l'Orient, où je devenais spécialiste en pleurage. Parce que comme personne n'aimait parler, à midi, je pleurais. Le soir, je pleurais. Donc,
spécialiste je pleurais. En pleurage.
Oui. Donc, l'action de pleurer, c'est pleurage.
On parle bien d'intégration. Du coup, on a pas su. Vous êtes là depuis combien d'années, combien de temps maintenant ?
Je suis arrivée le 9 mai 2014.
D'accord, donc c'est 4 ans, 3 à 4 ans. L'intégration s'est passée facilement. Quand on arrive comme ça, on parle, vous parliez un peu français, mais pas tant que ça.
Oui, je parlais français en fait. Mais après, je pense que ça m'a pris un an. Et après, vous savez, on a des petits détails qui peuvent nous rendre des réalités, des vraies réalités. Donc, un matin, après un an, je sais que je faisais mon café à la turque, toujours. Et j'ai eu un sentiment que je suis chez moi. Donc, mais ça a pris un an de me sentir chez moi à l'Orient, chez moi dans mon appart. Et je faisais mon café, c'était samedi matin, et d'un coup, j'ai dit, waouh, je suis chez moi.
Une réalité simple.
Oui, donc tu te réveilles chez toi, tu fais ton café et tu n'es pas dans l'état de fuir, de trouver vite des occupations, d'oublier.
Éric Courtet.
À partir du moment où d'un seul coup on se décide chez soi, la vie est peut-être plus simple derrière.
Oui, après c'est les sourires qui viennent, tu as l'envie d'aller vers des autres et tu te déshabilles d'un manteau qui te faisait d'avoir des épaules assez lourdes avec tout ton bagage d'exilé, en fait.
Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une année ? C'était une année après l'arrivée ?
Oui, si, oui.
Est-ce que c'est pas l'année nécessaire aussi peut-être
pour s'imprégner du pays ?
Pour s'imprégner du pays et puis se détacher de ce fameux manteau finalement, quoi, qui nous protège peut-être aussi et qui nous rend un peu nostalgiques des racines.
Oui, c'est ça, parce qu'on vit beaucoup de nostalgie. On se rend mélancolique très vite, mais après, vivement avec l'Internet, moi, je faisais toute ma vie, elle était sur Skype avec mes amis. Je buvais le café avec eux, on faisait des soirées avec mes potes. Sur Skype, tout sur Skype.
Tout sur Skype. Boire un café sur Skype, c'est pas terrible quand même.
Non, mais boire du vin, ça peut devenir ridicule.
C'est sûr. Alors nous sommes rencontrés il n'y a pas très très longtemps, donc 3 ans plus tard. Donc là, vous avez franchi la porte de Radio Balise. Et pour faire une... donc on a bien compris, vous venez de Roumanie, vous êtes plutôt dans une entreprise informatique qui bosse pour des grandes surfaces. Et là, vous êtes venu nous proposer des portraits de gens du monde maritime. C'est quoi le lien ?
En fait, moi j'ai commencé ce projet Moi j'ai traîné beaucoup dans les ports. Comme Tulcea, c'est un port au Danube. Moi, je suis très attirée par l'eau, par les gens des ports. Et j'avais fait à Paris en juillet une exposition de portraits sonores dans un festival dédié à la mer que mon compagnon m'a proposé. Et je suis allée à la recherche de gens qui travaillent au port de Kéroman. Et tout ça, en fait, j'ai construit un projet qui est un hommage à l'Orient, à cette ville que moi, parfois, j'ai dit dans mes écrits que c'est une ville assez moche, mais en même temps, avec assez beaucoup d'âme, que moi, maintenant, je le sens ma ville. Donc, je veux rendre un hommage à l'Orient avec ces projets, en me rapprochant des gens du port de Kéroman. Surtout aussi parce que ça m'intéressait qui nous amène la nourriture dans l'assiette. Donc, de voir qui sont les gens qui travaillent dans les ports, qui nous amènent les dos de cabillaud, tout ce qu'on cherche à Merville.
Donc voilà, c'est une série qui démarre là, puisqu'on a diffusé le deuxième aujourd'hui et demain matin. Si vous êtes à l'écoute en direct ce soir, lundi, mardi matin, il y a... Alors attendez, que je ne dis pas de bêtises, parce que dans les programmations...
Lundi soit, à
9h. Lundi à 9h.
Et mardi
à 16h, à tour de 16h. Donc écoutez mardi, demain, pour écouter Comme un poisson dans l'eau, la rencontre de Florentina. Et demain, je ne sais plus, c'est...
Régis,
c'est ça. On va se faire une petite pause musicale et puis on va revenir sur la question, sur votre pays, la Roumanie, à la musique.
From a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain.
I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes.
While arguing in traffic, Flipper died a natural death. He caught a nasty virus. Then there was the ever-present football player rapist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Holly caught a bullet, but it only hit his leg. Well, it should have been a better shot. Got him in the head. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain.
I don't mind the sun sometimes. The images it shows. I can. On my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes.
We'll be right back.
Little Surfer, Peeper, cet album électrique Larry Land de 96 sur Radio Balise dans ce rock club pour éviter de passer du... Je ne sais pas si je repasserai du jazz. Eric.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas. Mais c'était pour me remettre un petit coup de rock'n'roll.
Je rappelle juste que notre invité a un très très beau t-shirt avec marqué Jazz Festival.
Jazz, c'est vrai.
Jazz Festival. Oui, c'est un festival.
Bienvenue dans ce rock club, Florentina. Nous avons parlé déjà la semaine dernière avec Cab, qui était à votre place, de changement de vie. Bon, on a compris que la motivation pour venir à Lorient était le travail, mais votre motivation profonde de quitter le pays, c'était quoi? C'était un mal-être sur place? C'est quoi? Vous avez parlé de fuite, donc c'est quoi? Il y a un déclencheur, mon Nick, ça marche pas, enfin ce pays ne marche plus.
Oui, en fait, la décision, je l'ai prise. Surtout à cause de la politique actuelle et surtout de la corruption, parce qu'en Roumanie, on a le sentiment que la politique en ce moment, je ne sais pas si je peux le redire à la radio, mais je vais le dire quand même, c'est, tu sens que les politiciens te crachent entre les yeux, en fait. Et on avait ce sentiment qu'il y a la classe politique qui s'en fout de nous. Donc, j'ai choisi de plus vivre là-bas.
C'est donc, bon, elle a avoué les menottes, fit.
En fait, c'est pour revenir à une situation qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Là, le 6 octobre, il y a eu un référendum.
C'est le même parti qui m'a fait aussi.
C'est la même chose, en fait. C'est oui. les mêmes gens qui ont voulu lancer, qui ont lancé un référendum contre le mariage gay.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Et en fait, il a été annulé.
En fait, c'est le Parti social-démocrate qui depuis des années, ils sont votés par beaucoup de gens qui sont morts, des décédés. Donc, ils volent les élections, qui ne représentent pas du tout, qui ne nous représentent pas nous, ouais. Ma génération surtout. La dernière fois, c'était le référendum qui a été annulé à cause de la non-présence des gens, parce qu'il y a eu une grosse mobilisation en Roumanie. Pour ne pas y aller à ces référendums.
Ah, d'accord, le mot d'ordre, c'était de ne pas aller voter plutôt que de voter.
Oui. Parce que ça comptait d'atteindre un seuil de présence,
ouais.
Pour être valide. Mais les gens, ils ont préféré de boycotter et de ne pas prendre en compte ces référendums. Et le boycott, c'était une claque sur le visage des politiciens. C'était une claque de nouveaux gens en Roumanie qui s'opposent à l'Église.
Et ces gens-là sont au pouvoir depuis combien de temps?
Moi, j'ai quitté en 2014, donc ils sont arrivés 2012-2013.
D'accord, et depuis, c'est du très très dur comme ça. Et la jeunesse comme vous s'en va ou...
À ce moment, il y a ONU, il a publié en mars 2018 un rapport. Et il y a tous les heures 9 Roumains qui quittent le pays. Donc, moi, je trouve que c'est très grave. Il y a la génération 35-40 ans. Donc, ils disent que c'est une fuite de cerveau parce qu'il y a des gens qui ont des études.
Mmh. Et comme vous, d'ailleurs.
Oui, qui ont choisi de vivre. Moi, je ne suis pas venue en France pour être riche. Je suis venue en France pour vivre bien, pour respirer. Donc, en ce moment, ce moment, après la Syrie, on est le deuxième pays où le taux de quitter le pays, de départ, il est très élevé.
D'accord.
Et ça, c'est ONU qui vient de publier en mars 2018.
Parce que ça, on n'en parle pas. Autant dans la partie migrante aujourd'hui, on ne parle pas de la Roumanie, on parle de la Libye, des pays africains, de la Syrie, et des pays en guerre. Mais là, on n'est pas dans un pays en guerre, on est juste dans un pays avec une...
Justement, ça doit poser une question. Ouais. On n'est pas un pays en guerre, mais on quitte le pays.
Thierry.
Ouais. Là, ce n'est pas une migration qui serait liée justement à un niveau de vie, puisqu'il est relativement faible en Roumanie, mais juste parce que le ton, le style du régime politique en Roumanie n'est pas satisfaisant.
Oui, c'est surtout
donc
ça.
Ouais, donc la migration des cerveaux est une migration qui est liée à autre chose que l'envie de bien gagner sa vie.
C'est lié à la vie de vivre correctement.
Oui, d'accord. Ouais.
C'est tout.
Alors Thierry, donc, ta chronique, le pays où l'on n'arrive jamais, mais on a priori, on en part.
Oui, voilà. bien plus. Ouais. Alors, la Roumanie, c'est où? C'est où la Roumanie? Bah, je ne sais. Un improbable. Un état imaginaire. Un état juste là pour rêver. Un état qui ne sert à rien d'autre qu'à rêver. C'est bien, non? Bah non, c'est pas bien. La Roumanie existe, mais on n'en sait rien. Rien ou si peu. Des images. De pauvres images pour dire tout un pays. C'est quoi la Roumanie? La Roumanie, c'est tout là-bas. Un là-bas indistinct au fin fond de l'Europe, à la porte de l'Asie. Un pays au nom étrange, qui nous rappelle vaguement, mais un peu tout de même, Rome et son empire. C'est aussi en Roumanie qu'est né un des mythes modernes les plus étranges, celui de Dracula. Dracula, le vrai, a vraiment existé. On l'appelait Vlad l'Empaleur, et il détestait l'ail. Non, c'est pas vrai. La Roumanie n'est pas si vieille. Elle est née à la fin du XIXe siècle. Et après quelques guerres balkaniques et une première guerre mondiale, elle tente de s'asseoir dans le jeu européen où le fascisme est très en vogue. Celui de Mussolini d'abord, de l'Allemagne hitlérienne ensuite, auquel la Roumanie finira par succomber avant de se jeter dans les bras du communisme pour une longue idylle de près de 50 ans. Régime dur, très dur, dont la Roumanie sortira exsangue après la chute épique du couple Ceausescu. Aujourd'hui, elle est l'un des pays les plus pauvres d'Europe, dont le revenu moyen est à peine de 500 euros. Au-delà de ces traits affreusement schématiques, la Roumanie a tissé avec nous des liens forts. On ne peut pas oublier que nombre d'intellectuels parmi les plus grands viennent de ce petit pays. Que dire de Tristan Tzara, Mircea Eliade, Eugène Ionesco, Paul Celan, Émile Cioran, qui tous ont vécu en France. Mais qui le sait? Vague notion, injuste à peine, qui pour la plupart d'entre nous est déjà de trop. De toute façon, peu importe. Notre quotidien nous suffit. Il nous encombre de ses mille obligations. Faire les courses, s'occuper des enfants, aller au travail, supporter ses collègues, penser les vacances qui arrivent. Ouais, bien sûr, on ne saurait oublier le réchauffement climatique, la pollution, la montée du populisme, la démographie, les vieux de plus en plus gâteux, les jeunes de plus en plus rares, les migrants dont on voudrait se débarrasser à tout jamais. Ça fait beaucoup, beaucoup trop même, et devant ce capharnaüm qui ne cesse de s'intensifier, nous ne savons où donner de la tête ni que faire. Alors, la Roumanie. Mais, plus essentiellement, c'est bien cet autre à l'horizon. Un horizon tout proche, qui nous questionne, ou plutôt, que nous n'avons pas le temps de questionner. Il est là, et nous le savons, dans un clair-obscur, dont nous pressentons la nécessité de mieux le voir. Nous tâtonnons sans cesse, agacés sûrement par notre imprécision, mais incapables de mieux comprendre. L'altérité de l'autre nous reste définitivement est étrangère, trop par les temps qui courent. Nous avons affreusement besoin de nous ressaisir, de regarder le monde tel qu'il est et ce que nous en avons fait. La Roumanie, c'est chez nous. Nous sommes la Roumanie.
Nous sommes la Roumanie. Une réaction, Florentina Postaro?
C'est un très beau texte et je suis touchée d'entendre tous les noms cités de la littérature. Et après, non, c'est super touchant, en fait.
Merci. Thierry, on s'en fout des autres, c'est ça?
Oui, ouais, je pense qu'on est plus dans l'image, le fantasme, des prénotions, et on ne veut surtout pas en sortir. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cet autre-là, parce qu'il est de toute façon très présent, et de plus en plus présent. C'est tout ce monde qui... je ne parle pas ici des migrants, mais c'est le monde, d'une manière générale, qui nous interpelle. Et pour le comprendre, pour le saisir, on ne peut plus se résoudre à simplement le voir à travers des images, des représentations. Il faut pouvoir le voir réellement. C'est peut-être justement la démarche qui devrait être la nôtre aujourd'hui.
Et c'est une démarche qu'on ne fait pas?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Non.
Une réaction? Vous voulez dire quelque chose? Non? Là, vous êtes quoi?
Non, vous avez raison, en fait. C'est...
Bon, ceci dit, la Roumanie, c'est certainement, au-delà de ce qu'est ce pays-là, une altérité certainement questionnante, mais peut-être plus que n'importe quelle autre forme d'altérité. Elle peut nous permettre, si vraiment la Roumanie voulait nous interpeller, de nous ressaisir.
Est-ce que vous avez envie de visiter la Roumanie?
Oui, mais alors je peux dire oui, mais bon, mais j'ai de bonnes raisons parce que je connais une dame qui est un peu comme vous, qui est venue de Roumanie, qui s'appelle Ioana Galeron, qui avait 20 ans quand elle est arrivée ici. Et elle a passé l'agrégation de lettres. Elle est aujourd'hui une des spécialistes de la littérature française du XVIIIe siècle. Elle est prof d'université à la Sorbonne. Bon, voilà, donc, j'ai beaucoup parlé avec Johanna de son pays. Donc, je connais un petit peu mieux grâce à elle.
au-delà de l'image que Thierry Catroux peut porter à votre pays, quel regard aujourd'hui vous portez ? Vous êtes toujours sur la même rancœur par rapport à votre pays aujourd'hui, 4 ans plus tard, ou vous portez un regard affectueux encore ou pas, ou que c'est...
Moi, quand j'ai quitté la Roumanie, je me suis rendu compte que j'ai quitté des gens. Après, le pays, il y a des endroits, mais ce qu'on quitte sont les gens, en fait. Et c'est d'ici, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a des moments de mélancolie, de nostalgie, mais c'est pas beaucoup par rapport aux gens. Et surtout, pour moi, par exemple, la Roumanie, c'est la famille.
Oui, toute votre famille, vous êtes seule en termes de famille en France, aujourd'hui.
Avec mon compagnon.
Ah oui. Donc vos familles, parents, frères, sœurs, je ne sais pas.
Sont tous en Roumanie.
Et qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de votre migration, comme ça, j'imagine que vous... Vous faites du Skype, donc vous les avez régulièrement.
Après, c'était super partagé parce que ma mère, comme toutes les mères, elle a mal réagi et j'ai eu beaucoup de sentiments de culpabilité qu'elle m'a donné. Mais après, mon père, il m'a toujours encouragée. Ma sœur aussi, ils m'ont dit que je dois résister parce que moi aussi, j'ai eu des moments, après 2-3 mois, quand j'ai dit non, je ne peux plus, je ne vais arriver jamais à m'intégrer. Je vais rentrer, c'est trop difficile. Et après, mon père, il m'a dit, non, il faut que tu restes, il faut résister.
Thierry.
Oui, c'est être ailleurs pour continuer d'être, pour pouvoir être. Ouais.
Exact. Ouais. Et après, tous mes amis, ils ont tous me soutenu et j'ai l'impression parfois que j'ai vu aussi le rêve de mes amis qui ont voulu quitter la Roumanie.
Ils vous passent ce message-là j'aimerais bien venir te rejoindre ou... Comment c'est ou...
Ah oui, ils sont intéressés de tout. Et, j'ai l'impression qu'ils sont tous super assoiffés de savoir comment c'est ici, comment c'est la Bretagne, comment c'est vivre ici.
Eh bien, on va leur dire bienvenue à la jeunesse roumaine. Allez, on se fait une petite pause musicale et on revient sur votre parcours après. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find a light. My keys, was it with you or were you with me? Yes, my suit is tight and the light shines bright on me. Mm-hmm. It's Friday night in the club, celebrating that I'm me. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find her light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me? I saw you in the corner, damn. I saw you twice. It's the liquor that's watching you straight from my eyes. Nice and slow, we'll come over to you. Tell you all the things that you wanna hear from me too. You got all the right tools, I'm the one that's lost here. You say you spend the day on the beach and we can just play. I'm sure you're really nice, but I can't remember your name. And I kinda hate myself for even being in this place. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find her light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me?
I'm so sick of this. it's ridiculous. Think my liver is about to give in. It's pretty imminent. Walls closing in, space limited. Anything to fill this hole of emptiness. Now I'm onto this. Way to cultivate a fake confidence. Now it's on again. Drop a clonopin. I just wanna know the stress is gonna end. Love the way she make me say ah again. Though it's not a mental, I'm honoring. Fly away and stop, and then I start again. Steady nodding, man. I'm a goner if I don't find what I be searching all up in. All the bottles and pretty models and just a way to leave and step up out of me. Drink or smoke or needle in the artery. Tell my honesty and my modesty disappear while I am on this odyssey. All I wanna do is see it clear. Trying to get to anywhere but here.
I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find a light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me? See, I am not wearing the clothes that I left with. And this is not the bed I made before breakfast. I don't know why.
Radio Balise 99.8.
Et vous êtes toujours dans le rock club, le club, je ne sais pas comment on le nommera, puisque maintenant on passe autre chose que du rock dans cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de Florentina Postaro sur ce 99.8. On va écouter bien Florentina, puisque Eric Courtet là, va compter votre vie.
J'aime beaucoup regarder les anciennes photos de ma famille pour trouver les images de mes parents jeunes. J'observe l'allure de ma mère à la fin des années 70, jupe très courte ou pantalon évasé, chip Charlie comme elle disait. Elle avait de beaux cheveux très longs. Mon père portait aussi des pantalons pattes d'éléphant, un col roulé, les cheveux ondulés un peu longs. Tous les deux souriaient beaucoup. Les photos de mon enfance montrent tout autre chose, les années 80. Ma mère est devenue moins coquette et j'aperçois un regard triste sous une coupe de cheveux trop courte. Chaque image semble transpirer le système maladif auquel nous étions tous contraints. Pas de couleur, pas d'originalité et surtout pas de hors normes. Nous devions être tous pareils. À Tulcea, comme dans la majorité des villes en Roumanie, il y avait très peu de magasins pour s'habiller. Les vêtements qu'on y trouvait, cher pour le salaire moyen de l'époque, était presque exclusivement fabriqué en Roumanie. Ma mère, qui surveillait le budget familial, m'a raconté qu'elle avait dû demander un crédit à l'usine où elle travaillait pour acheter mon premier manteau. De Chine, nous avions des baskets en toile blanche avec une semelle verte, des culottes blanches avec des cerises imprimées et des débardeurs blancs. Encore aujourd'hui, ma mère me répète avec nostalgie, c'était de la qualité bien meilleure que maintenant. Comme Tulcea est un port, il y avait aussi ce que les marins ramenaient en rentrant chez eux, après des mois de navigation et d'escale à l'étranger. Des habits, des chaussures de sport, des cassettes VHS, des chewing-gums, bref, tout ce qu'on ne trouvait pas en Roumanie. Un gamin dans la rue mâchouillant fièrement un chewing-gum avec un jean et une paire d'Adidas, aucun doute possible. Son père était marin et il venait de rentrer. Ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir un marin dans la famille pouvaient, s'il restait un peu d'argent, leur marchander directement certains produits. Moi, à 3 ans, j'étais très élégante. Maman aime me rappeler que je ne sortais jamais sans mon petit sac et mes 2 poupées. Un jour, des enfants m'ont couru après pour me voler le sac. Poursuivi, j'ai aussi perdu les chaussures. Probablement trop grandes et ce fut la fin de mon envie d'élégance. Un vrai drame dans mon parcours de fashion victime. Une fois le sac volé, mon envie d'être habillée au dernier cri avait lui aussi disparu. De notre entrée à l'école maternelle jusqu'à la fin du lycée, nous devions porter l'uniforme, avec, en hiver, des couches de pull-over en guise de maillot de corps pour nous protéger du froid qui régnait dans les classes. Sous la tunique sans manches, nous avions toujours un pantalon de survêt en coton. Nous arborions aussi une cravate rouge assortie à l'uniforme bleu marine qui, hélas, ne nous réchauffait pas. J'étais, paraît-il, maniaque avec mes tenues. Une manche un peu chiffonnée signifiait le désastre et le refus, catégorique d'aller à l'école. Carmen, ma sœur, qui ne comprenait rien à la mode, mais responsable de mon départ à l'heure, ne tenait pas compte de mes exigences. Et pour me faire sortir contre mon gré de l'appartement, courait après moi, comme Tom après Jerry. En dehors de l'école, nous portions souvent des survêtements tristes et sans couleurs vives. L'arrivée des températures hivernales amenait chaque année dans les rues de Toulcha le défilé de nos amis, les bêtes, portées par les humains. Après une trêve de 9 mois dans nos armoires, les animaux, plus jolis les uns que les autres, défilaient librement un peu partout sur les têtes roumaines, sans avoir peur d'être chassés à nouveau. Des lapins portés par les enfants, des renards polaires, d'une manière plus élégante par les femmes, et bien sûr, les sévères moutons gris par les hommes, d'après la mode initiée par notre suprême camarade président. Quand nous sortions en famille, nous étions une sorte de ferme ambulante. Ma mère avait un joli renard blanc que nous adorions caresser quand elle nous le permettait. Mon père portait sans jamais couvrir ses oreilles la célèbre chapka haute mouton qui le rendait encore plus grand à mes yeux. Ma sœur baladait fièrement sur la tête son lapin blanc qui, de temps en temps, devenait jaune. Elle le frottait alors avec du maïs pour lui rendre l'éclat de sa couleur d'origine. Moi, je devais supporter mon gros lapin gris. Je détestais cet horrible animal qui triplait le volume de ma tête. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à faire confiance à un lapin. Et puis, il y avait le must absolu. Nous l'appelions la ligne de l'aune. C'était la pièce maîtresse de toute armoire respectable. Je me demandais si Alain Delon, plus connu à cette époque en Roumanie dans la mode qu'au cinéma, a su un jour qu'un manteau portait son nom. Ou peut-être devrais-je l'en informer avant qu'il ne nous quitte.
Alors, ça fait quoi d'entendre, parce que le texte, on va le dire, est de vous, Florentina Postaru. Ça fait quoi de s'entendre
Ça fait que tu as bien compris. Tu as bien compris toute la subtilité de ce qu'on a vécu, en fait. Je ne sais pas si j'étais trop subtile, mais en tout cas, avec mes écritures, j'essaie d'essayer de raconter mon enfance et... mais sans devenir dramatique, parce que finalement, c'était une enfance. Que...
C'est une enfance plutôt classique quand même. C'est-à-dire qu'on vit, on voit, on s'habille, on a ce qu'on a, mais c'est pas, je ne dirais pas joyeuse, mais en tout cas, elle a l'air plutôt saine, enfin sereine, cette vie.
Ah non, c'est mais grâce à mes parents, nous, on a eu une enfance normale. Oui. Sauf que, moi, je l'écris, on était... des prisonniers dans un pays fermé.
Faut rappeler que c'est dans le texte est écrit, enfin pas écrit, mais en tout cas ça se passe dans les années 80. Donc le dictateur en chef est Ceausescu. Vous vous rendez compte de ça, vous, en petit, ou vos parents forcément, mais vous?
Nous, on s'est rendu compte qu'il y a le président qui était le plus important, parce que chaque fois dans la classe on avait déjà l'image de Ceausescu en tableau devant la classe. Le matin à 7h quand on commençait les courses, on devrait chanter avec le professeur et tout le monde début, on devrait chanter l'hymne national. Moi, ce que je me souviens, c'est un petit peu la peur, parce que si mes parents ils racontaient quelque chose entre eux ou pendant un repas ou pendant une fête chez nous, On était toujours bien attentionnés de ne pas raconter
oui, ils faisaient attention, quoi.
Oui, c'est qu'ils ont fait comme blague et tout ça. Donc, il y avait un peur qui régnait quand même.
J'aime bien le Alain Delon. et qui, a priori, d'après ce que j'ai lu dans la suite de votre texte, c'est qu'il a fini par rentrer dans les noms communs du dictionnaire roumain.
Maintenant, oui. C'est comme un néologisme. Après, il nourrit la langue. Il s'est adapté. Mais je ne sais pas si...
Type de manteau de fourrure, Alain Delon. Eric.
Pour revenir au texte, quand même, en fait, c'est un polaroïde. Ou une succession de polaroïdes, ce texte. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie, quand je l'ai découvert, avec les quelques petites images qui l'accompagnent. Voilà, cette idée de le polaroïd ramène à une couleur, à un passé, à une époque. Et je trouve que le texte, justement, comme tu le disais tout à l'heure, on sent quand même, quelque part, qu'il y a une forme de nostalgie, de mélancolie. Et en même temps, c'est traité de façon un peu drôle qui met un peu d'une distance sur peut-être la gravité de l'époque malgré tout. Quoi.
Le mot que je cherchais tout à l'heure, il y a une note d'humour, je trouve, en tout cas de désinvolture dans le texte.
Oui, parce que c'est le regard. Moi, j'essaie de garder le regard d'enfant. Après, on était habitué avec le froid dans les classes. Pour moi, avoir deux pulls après l'uniforme, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était comme ça. Donc, on s'adaptait.
Allez, on va faire une petite pause musicale avant d'attaquer la chronique d'Emmanuel. On se retrouve tout de suite.
Here she comes in her palanquin on the back of an elephant on a bed made of linen and sequins and silk. All astride on her father's line with the king and his concubines and her nurse with her pitchers of liquors and milk. Rhapsodical and fair, and all our hearts afire, the sky ablaze with cannon fire. We all raise our voices to the air, to the air, and above. Quiet streams in the lake where
Tambourist, The Infanta dans leur rock club sur le 99.8, ce groupe de Portland qui a une grosse tournée en ce moment en Angleterre, aux Pays-Bas et à Berlin. Je vois pas de date française, c'est dommage, mais ça va venir. En tout cas, ils sont dans la playlist de Radio Balise. Thierry Catroux, je t'ai pas laissé poser une question à Florentina Postaro suite à son texte. À toi. Pose ta question.
Bah, la question, c'était qu'est-ce que sont devenus ses parents qui sont restés là-bas? Alors, Fiorentina, c'est quoi?
Maintenant, ils sont à la retraite. Ils ont 67 ans, mon père, et 65, ma mère. Ils sont à la retraite active. Mon père, il travaille toujours dans l'agriculture. Et,
65 ans, donc la retraite est à quel âge officiellement? Il n'y en a pas? Sur un pays comme la Roumanie?
C'est à 65, je pense.
65, d'accord.
Mais il ne peut pas rester dans notre T2, dans l'ancien T2 de 52 mètres carrés, donc ils doivent s'occuper.
Oui, d'accord.
C'est l'appartement depuis qu'on était jeunes. Et après, mes parents, ils n'ont pas très bien encaissé la révolution, parce que c'était la première génération qui s'est trouvée avec un nouveau statut, un nouveau mot. Il est entré aussi dans notre langage et notre dictionnaire, c'était le chômage. Mm-hmm. Donc après la révolution, avec la privatisation, ils se sont retrouvés chômeurs.
Révolution, c'est 89.
89 en décembre.
Cette image terrible de... En fait, moi, c'est une image qui m'a marqué, en fait.
De Ceausescu.
En direct. C'était aussi violent que la violence que vous avez dû, que ce peuple a vécu avant. Mais c'est une image qui était très, très forte dans l'histoire, je trouve.
Après, la Roumanie, comme la France, on a réussi à tuer
oui. Non, mais bien
nos
sûr.
Rois, nos reines. Donc, sauf que nous, on l'a fait avec les fusils pour Noël. Après, je pense que c'était un soif de lui payer tout ce qu'on
ouais.
a vécu. Nous, on n'a pas trouvé très sauvage, par exemple. À moi, ça m'a pas trop choqué.
Éric ?
Oui, on en parlait tout à l'heure, justement. Ouais. C'est vrai que c'est des images qui
sont fortes en tout cas.
Moi je vivais ça, j'étais jeune adolescent, je vivais ça en direct en fait,
oui.
Et c'était extrêmement puissant, très
oui,
fort,
très
et
fort.
Très, très, ouais, ça perturbait quand même un peu.
Après, moi je me souviens que j'étais dans un camp de sportifs pendant l'hiver, pendant la révolution. Et je sais que la première phrase que j'ai entendue après Ceausescu, il est parti, c'est une collègue qui a dit « maintenant on va avoir des bananes ». Donc pour nous qu'on avait les magasins vides, pour nous le fait que Ceausescu disparaissait, ça veut dire qu'on allait avoir à manger. Donc pour moi c'est cette phrase qui est depuis que j'avais 13 ans, ça me restait dans la tête. Maintenant on était sûr qu'on va avoir les magasins pleins et on va avoir des bananes.
Et donc vos parents ont pris derrière le capitalisme sauvage de plein fouet quoi.
Oui, ils sont devenus chômeurs à 55 ans, c'était très dur pour eux.
Oui, j'imagine. On va changer un peu de sujet. Emmanuel, tu vas nous plomber l'ambiance? Non, c'est pas vrai. Vas-y, à toi. Parce qu'on fait souvent un lien ou pas, ou qui
oui,
est pas
à
juste,
tort, peut-être, à tort
peut-être, entre les Roms et la Roumanie. À toi, Emmanuel.
Aujourd'hui, on parle de Roumanie, d'immigration et d'intégration. Intégration à la population française. Je déteste ce mot d'intégration. L'intégration, c'est quoi? La fusion, la dissolution, effacer sa mémoire, effacer son identité, rentrer dans la case de l'unité nationale. On a beau parler de diversité, force est de constater que certaines minorités, comme les Roms, n'ont pas droit de cité sur le territoire français. Parqués dans des camps à l'entrée des grandes villes, caravanes, cabanes en tôle et matériaux de récup, sans eau, sans électricité, les bidonvilles ont repoussé au cœur de la République. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la crise du logement. Alors, on n'a plus d'HLM à offrir aux nouveaux arrivants. Les logements vides, les logements vacants doivent le rester, car le proprio en a décidé ainsi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est licite. Par contre, les campements, c'est illicite, donc on les rase. Mais faute de relogement, ils se reconstruisent. Les forces de l'ordre évacuent les gens de la rue pour les remettre dans la rue. Mais on s'en fout parce que c'est des migrants. Et encore pire, des Roms. Personne n'en veut des Roms rejetés en Roumanie, rejetés en Hongrie, rejetés en France. C'est la minorité la plus stigmatisée d'Europe. Anti-tziganisme au XXe siècle, romophobie aujourd'hui. On change les mots, mais derrière, c'est le même scénario xénophobe qui s'écrit. Obsession sécuritaire, repli identitaire, recherche d'un bouc émissaire et bam, la fachosphère se libère. Sous couvert de réalisme, elle contamine tous les esprits. Et oh, les bisounours, tout le monde, il est beau, il est gentil, c'est fini, réveillez-vous. 77% des Français pensent que les Roms ne veulent pas s'intégrer. Parce que c'est bien connu, les Roms, ils préfèrent... Les Roms, ils veulent pas bosser, ils préfèrent voler, fouiller dans les poubelles et envoyer leurs gosses mendier. Puis c'est des nomades à la base, donc faut pas croire. En vrai, ils aiment bien vivre à la fraîche. Avant de recracher des préjugés dégueulasses, faudrait peut-être s'informer sur ces indésirables que personne ne veut voir. Déjà, on est loin de l'invasion fantasmée. Ils sont entre 15 000 et 20 000. Ensuite, ils n'ont rien à voir avec la catégorie des gens du voyage qui, eux, sont français depuis des générations. Les Roms d'aujourd'hui, ils viennent en majorité de Bulgarie et de Roumanie. Donc, ils ne sont pas nomades par nature. C'est juste qu'ils sont contraints à la mobilité à force d'être expulsés. Et enfin, ils sont citoyens européens depuis 2007, donc ils bénéficient de la liberté de circulation. Ils se font virer, mais ils reviennent et c'est leur droit. Peut-être que cette politique d'exclusion est inefficace et même néfaste avec la déscolarisation des enfants qu'elle entraîne. Peut-être qu'il faudrait mieux se taire au lieu de se vautrer dans des discours de haine.
Ce lien, en fait, il vous pèse, Florent Tina Pestarou, ce côté rome-roumain, ou c'est carrément autre chose pour vous, ou c'est deux...
Pour moi, c'est... Ce sont deux choses différentes, ouais, déjà.
Ouais. Parce qu'en fait, on l'associe souvent à votre pays, en fait.
Oui, moi j'ai obéi à cette confusion, et je l'ai subi, en fait, cette confusion. Mm-hmm. Mais ce sont deux choses différentes, déjà. En 2017, quand la Roumanie a été acceptée dans l'Union européenne, l'intégration des Roms, et c'était une condition de l'Europe pour la Roumanie, pour intégrer l'Union européenne. Donc, je pense que l'Union européenne a su les problèmes. Les Roms, comme nous, ils sont devenus des citoyennes européennes.
Ouais.
Et cette confusion roumain-rome, ça, pour moi, ça arrive d'une manque d'instruction, déjà, et d'une manque d'information. Et pour moi, c'est aussi un poids dans ça, c'est la média, comme je l'ai dit dans un de mes textes, qui... Je pense qu'aux médias, et c'est que ça passe à la média, je pense qu'il y a cette confusion qui est un petit peu entretenue.
Chez vous aussi ou...
Chez nous, c'est un sujet super sensible. Et c'est très, très sensible parce que structurellement, nous on a grandi avec la dénomination des tziganes.
Ouais.
Donc pour nous, c'est tzigane.
D'accord.
Et c'est toujours très péjoratif. Et depuis qu'on était petit, par exemple, on n'est pas menacé d'être donné au loup ou les ours qui vont nous manger. En Roumanie, quand moi j'étais petite, partout, tu entends, je te donne au tzigane.
D'accord.
Donc nous, on a vécu avec cette idée dans la tête. Il y avait des gens, des tziganes, qui essayaient d'avoir leur vie, de trouver du travail, d'être bien dans leur travail. Et on disait que ce sont des tziganes romanisés. Même aujourd'hui, d'accord, je parlais avec un copain roumain et on parlait de ça. On disait, regarde, lui, il est un tzigane romanisé. Mais dès qu'il faisait une petite erreur, on disait, ah non, mais lui, il est un tzigane, c'est clair. Il
va, et cette notion de Rome, elle vient
elle est assez récente.
Elle viendrait de là, en fait, c'est-à-dire ce côté, en fait, où des tziganes se seraient romanisés, donc devenus des Roms. Non, ça n'a rien à voir.
En fait, à l'origine, c'est Rome, comme étymologie, ça vient de Dom. Qui signifie homme, garçon, et après c'était transformé en Rome. Mais Rome roumain, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Il y a des Roms en Bulgarie, il y a des Roms en Serbie.
Emmanuel.
Mais Rome, je crois que c'est une terminologie de l'Union européenne, en fait.
Oui, c'est en 2003.
Ah, voilà.
C'est en 2003 que l'Union européenne a décidé de, je pense, d'adoucir, mais au niveau des libellés de cette ethnie.
Il y a encore un technocrate qui a dit, là, on va essayer de trouver un terme un peu moins péjoratif, peut-être pour les Roumains, que tziganes, justement.
Que tziganes, peut-être, il était trop dur.
D'accord.
Mais après, pour nous, c'est tzigane. Donc, et je pense qu'il y a des gens de cette ethnie qui disent que c'est tzigane. Donc, après, ils sont toujours été isolés. Moi, je me souviens qu'à l'école, les enfants tziganes, c'était toujours au fond de la classe. Ils étaient toujours isolés. Les enfants de la maison des orphelins, ils avaient toujours des tziganes, donc c'était, moi, ça, c'était toujours quand... marginalisé.
Ouais, ça, bah, de toute façon, c'est une population. Alors moi, je ne connaissais pas le chiffre, mais 15 à 20 000, c'est pas beaucoup en fait sur un en France.
Ouais.
En Roumanie, vous savez, non, vous savez pas peut-être le chiffre qui, c'est pas, enfin, c'est pas tant que ça au final, mais ça reste quand même des populations qui sont marginalisées, qui.
Il y a aussi un phénomène du bouc émissaire. Enfin, on les marginalise, on s'en sert aussi pour.
Thierry.
C'est surtout pas d'aujourd'hui. Ce phénomène existe depuis plusieurs millénaires. Enfin, depuis que l'homme, en gros, s'est sédentarisé. C'est le nomade absolu. C'est l'autre. C'est celui qui est nulle part et partout. Et qui, en quelque sorte, questionne notre sédentarité et notre façon d'être. Donc, c'est un autre être. Et cet être-là nous pose la question de savoir si notre être vaut la peine d'être. Donc, voilà. Non, mais le rejet du tzigane vient aussi de là.
Vient de là, ouais.
C'est une remise en cause totale et globale
de notre système de fonctionnement à nous tous, quoi.
Et peut-être après, il y a d'autres choses. Il y a peut-être la tentation de l'ailleurs.
On a quelquefois le même problème avec les gens du voyage, par exemple en France, qui sont une autre population, mais qui des gens qui sont pas sédentarisés justement, et on peut avoir ici en local des difficultés avec des populations comme ça. L'heure se termine, on pourrait en parler pendant des heures. Peut-être qu'on refera une émission sur la Roumanie, pourquoi pas. On aura l'occasion de revenir avec d'autres textes. L'heure se termine. Je voulais annoncer des choses, mais un truc à annoncer les uns les autres rapidement. Non, rien de spécial.
Dans le cadre de notre discussion, il y a un livre qui mériterait d'être lu. C'est Le destin de l'Europe de Ivan Krastev, c'est un Bulgare, justement, qui pose la question de l'intégration de la Roumanie, la Bulgarie, de ces pays-là, et des difficultés qu'elles ont aujourd'hui, et du questionnement qu'elles peuvent avoir sur leur destin.
Eh ben, sur son bon mot, merci à tous pour cette très belle émission, beaucoup d'émotions. Merci Emmanuel, merci Eric. Générique Marc, on se retrouve pas la semaine prochaine, c'est les vacances. Donc une rediffusion, on n'a pas encore choisi laquelle, mais c'est pas très important. La semaine du 5 novembre, on recevra Jean-Jacques Touze autour de ce concert mythique de James Brown à Carré en 97. On a sans doute des bouts de live qui traînent. Après, on aura d'autres émissions, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Donc merci en tout cas Florentina Postaru pour cette joli témoignage de votre pays et d'avoir donné un peu d'accent dans cette émission. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous, bonne journée pour ceux qui nous écoutent jeudi. Ciao.